Chapitre 53, la crise finale. Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu mais sans arrêt. Déjà plaies et jugements frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamités sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde, et les événements de la fin, se précipiter. L'état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les vols et les meurtres se multiplient. Des vies d'hommes et d'enfants sont supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le vice sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes. Satan a réussi à pervertir la justice, et à remplir les cœurs du désir de réaliser des gains illicites. La délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Les grandes villes comptent des multitudes de miséreux, privés presque complètement de nourriture, de vêtements et d'abri, alors que l'on rencontre dans les mêmes villes des gens qui possèdent plus que le cœur ne peut souhaiter, qui vivent dans le luxe, dépensant leur argent en maisons richement meublées, ou ce qui est pis, pour des gourmandises, des liqueurs, du tabac et d'autres choses tendant à détruire les facultés intellectuelles, à troubler l'esprit et à souiller l'âme. Les cris des foules mourant d'inanition montent jusque vers Dieu, tandis que des hommes amassent des fortunes colossales par toutes sortes d'oppressions et d'extorsions. Une scène de destruction. Un soir, me trouvant à New York, je considérais les édifices s'élevant, étage sur étage, vers le ciel. Ces immeubles, garantis incombustibles, faisaient la gloire de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. On avait employé à leur construction les matériaux les plus coûteux, sans se demander comment on pourrait le mieux glorifier le Seigneur. Je me disais, si seulement ceux qui emploient ainsi leurs richesses pouvaient se voir comme Dieu les voit. Ils construisent des édifices magnifiques, mais leurs plans et leurs inventions ne sont que folie aux yeux de celui qui règne sur l'univers. Ils ne se demandent pas comment ils pourraient glorifier Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. C'est cependant le premier devoir de l'homme, mais ils l'ont perdu de vue. Tandis que s'élevaient ces constructions, leurs propriétaires se réjouissaient orgueilleusement d'avoir assez d'argent pour satisfaire leurs ambitions et exciter la jalousie de leurs voisins. Mais une grande partie de cet argent avait été obtenue d'une manière injuste, en exploitant le pauvre. Ils oubliaient qu'au ciel toute transaction, tout acte inique et toute affaire frauduleuse sont enregistrées. Il arrivera que les hommes atteindront dans la fraude et l'insolence une limite que Dieu ne leur permettra pas de dépasser. Ils apprendront alors qu'il y a des bornes à la patience de Jéhovah. Puis une autre scène passa devant moi. On donnait l'alarme, un incendie s'était déclaré. Des hommes regardaient ces immenses édifices supposés à l'abri du feu, et disaient, « Ils sont absolument hors de danger. » Mais ces constructions furent consumées comme de la poix. Les pompes à incendie ne purent empêcher leur destruction. Les pompiers n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Il m'a été dit que lorsque le jour du Seigneur viendra, si aucun changement ne s'opère dans le cœur de ces orgueilleux et de ces ambitieux, ils constateront que la main autrefois puissante pour sauver est également puissante pour détruire. Aucune force terrestre ne saurait retenir la main divine. Il n'est pas de matériaux qui puissent préserver une construction de la ruine lorsque viendra le temps fixé par Dieu pour châtier ceux qui méprisent sa loi et nourrissent une ambition égoïste. Les véritables causes ne sont pas comprises. Ils sont peu nombreux, même parmi les éducateurs et les hommes d'État, ceux qui comprennent les causes réelles des conditions actuelles de la société. Les hommes qui tiennent les rênes du pouvoir sont incapables de résoudre les problèmes de la corruption morale, du paupérisme et du crime grandissant. C'est en vain qu'ils s'efforcent de donner aux affaires commerciales une base plus sûre. Si l'on voulait accorder plus d'attention à l'enseignement de la parole de Dieu, on trouverait une solution à tous les problèmes. L'Écriture décrit la condition du monde immédiatement avant la seconde venue du Christ. Voici ce qu'il est dit de ceux qui amassent frauduleusement de grandes richesses, « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Mais qui s'occupe des avertissements que nous donnent les signes des temps se succédant si rapidement? Quelle impression font-ils sur les mondains? Quel changement voit-on dans leur attitude? Pas davantage qu'on en vit au temps de Noé. Absorbés par les affaires et les plaisirs, les antédiluviens ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Des avertissements venus du ciel leur avaient été adressés, mais ils refusèrent de les écouter. De même aujourd'hui, le monde ne prête aucune attention aux avertissements divins et se précipite vers la ruine éternelle. Le jour de l'Éternel est à la porte. Un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque tout accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites dans les prophéties. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Car il transgressait les lois, violait les ordonnances, et rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. Ah ! Quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. La vigne est confuse, le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Je souffre au-dedans de mon cœur. Je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Malheur. Car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Ceux qui sont fidèles. Mais tout le monde ne s'associe pas à l'ennemi pour lutter contre Dieu. Tous n'ont pas abandonné le bon chemin. Un petit nombre est resté fidèle au Seigneur. Car Jean écrit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bientôt une bataille furieuse s'engagera entre ceux qui servent Dieu et ceux qui lui sont infidèles. Bientôt tout sera ébranlé, afin que ce qui est fort subsiste. Satan étudie la Bible avec soin. Il s'efforce de contrecarrer partout l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la terre, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. On ne peut se faire une idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours lorsque se manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se renouvelleront. Celui-ci marchera à la lumière émanant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, des communications constantes seront établies entre le ciel et la terre. Satan, de sous-côté, entouré de mauvais anges, et se faisant passer pour Dieu, fera toutes sortes de miracles afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Les miracles ne sauraient affermir le peuple de Dieu, car Satan contrefera ses miracles. En cette dure épreuve, les croyants trouveront leur force dans le signe mentionné par le Seigneur dans. Il faudra qu'ils s'appuient sur ces paroles d'un intérêt vital, il est écrit. C'est le seul fondement solide. Ceux qui auront violé leur alliance avec le Seigneur seront alors sans Dieu et sans espérance. Les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect pour le quatrième commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu et la preuve qu'il a droit à la vénération et aux hommages de l'homme. Les méchants se feront reconnaître par leurs efforts en vue de renverser le mémorial du Créateur pour élever à sa place l'institution romaine. À l'issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée en deux grandes classes, l'une qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus, l'autre qui adorera la bête et son image et recevra sa marque. Malgré les efforts combinés de l'Église et de l'État pour contraindre les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne capitulera pas. Saint Jean, à Patmos, a vu ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. L'esprit belliqueux agite les nations d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais pendant le temps de détresse qui approche, un temps de détresse comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent, le peuple de Dieu restera inébranlable. Satan et son armée ne pourront le détruire, car des anges qui excellent en force le protégeront. Les jugements de Dieu. Le Seigneur est sur le point d'abandonner la terre à son triste sort. Bientôt on verra la mort et la destruction, une recrudescence du crime, et une lutte cruelle contre le riche qui s'est glorifié aux dépens du pauvre. Ceux qui ne jouiront pas de la protection divine ne seront en sécurité nulle part. Des hommes instruits utiliseront leurs connaissances pour inventer les plus puissants engins de destruction qui sèmeront la mort et la désolation. Bientôt on verra des troubles graves surgir parmi les nations, des troubles qui ne cesseront de se produire jusqu'au retour de Jésus. Comme jamais auparavant, nous avons besoin de serrer nos rangs, afin de servir celui qui a établi son trône dans les cieux, et dont le royaume domine tous les autres. Dieu n'a pas oublié son peuple, et nous serons forts si nous ne l'oublions pas nous-mêmes. Les jugements de Dieu s'abattent sur la terre. Les guerres et les bruits de guerre, les destructions par le feu et les inondations nous disent clairement que le temps de détresse, lequel augmentera en intensité jusqu'à la fin, est proche, à la porte, Review and Herald, 24 novembre 1904. Dieu adresse ses paroles à son peuple. « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Il faut que les croyants se distinguent du monde en servant Dieu de tout leur cœur. Qu'ils ne s'arrogent aucun honneur, mais se rappellent qu'ils se sont engagés solennellement à ne servir que lui. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Ces paroles ne nous désignent-elles pas comme le peuple de Dieu? Ne nous disent-elles pas que nous devrons toujours honorer l'institution sacrée qui nous distingue en tant que dénomination? Les enfants d'Israël devaient observer le sabbat de génération en génération, comme une alliance perpétuelle. Le sabbat n'a rien perdu de sa signification. Il est encore, et il sera à jamais, le signe entre Dieu et son peuple.